Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est donc vendredi et c'est le club des idées du grain. Il s'est frotté à une jeune fille dans le bus. Il encourt 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Il a posté la photo de son ex nu sur les réseaux sociaux. Il encourt 2 ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende. Il a traité une femme de salope parce qu'elle portait une jupe. Il encourt 6 mois d'emprisonnement, 22 500 euros d'amende. Voilà quelques-unes des situations retenues par le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de sa nouvelle campagne de communication contre les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Campagne lancée hier et qui vise, selon le communiqué de presse, à faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de leurs actes. Prendre conscience, voilà l'expression qui paraît la mieux adaptée à ce qui est en train de se passer depuis quelques jours dans la foulée de l'affaire Weinstein. Spectaculaire libération de la parole, en particulier sur les réseaux sociaux, qui donne une idée de l'ampleur des agressions subies par les femmes. Alors c'est pour tenter de caractériser ce phénomène que France Culture vous propose depuis ce matin une journée spéciale, violence sexiste et maintenant. Alors un point de non-retour a-t-il été atteint ? Après l'affaire Weinstein, plus rien ne sera comme avant. Eh bien, c'est le sujet du Club des idées de ce soir, pour la première fois donc, et ce sera le cas désormais chaque vendredi depuis le bar Le Bel Air de la maison de la radio, bar où vous êtes invité à nous rejoindre chaque vendredi pour le grain et ensuite également pour la dispute. Ils sont quatre ce soir pour inaugurer ce qui est à la fois un vrai et un faux nouveau rendez-vous. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignante à Sciences Po. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, éditorialiste à Challenge. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, on peut notamment retrouver une de vos émissions sur le site Là-bas si j'y suis. Et puis Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Le tour du monde des idées, c'est sur France Culture, tous les jours, vers midi moins 10 du lundi. Enfin, tous les jours, c'est du lundi au vendredi.
11h53.
11h53 pour être précis, mais c'est pas grave si on écoute 3 minutes supplémentaires. Oui, ça n'est pas encore tout à fait du
Brice Couturier. Très intéressant aussi.
Alors, je voudrais qu'on essaye d'analyser un petit peu ce soir cette séquence qui dure déjà depuis plusieurs jours de libération de la parole des femmes suite notamment à l'affaire Weinstein. Est-ce que d'abord vous avez une explication sur le retentissement énorme que a pu avoir cette affaire? Une affaire avant tout américaine, ici en France. Anastasia Colosimo.
Alors je dirais que c'est arrivé, il faudrait retrouver la chronologie exacte, mais l'affaire est arrivée en même temps que des affaires françaises, parce qu'il y a eu le débat entre Christine Angot et Sandrine Rousseau dans On n'est pas couché. Et en fait, il y a eu un double mouvement, c'est-à-dire il y a eu en plus des actrices françaises qui sont intervenues et qui ont dénoncé Weinstein aussi, Léa Seydoux notamment, il me semble. Donc je pense qu'il y a eu il y a une très forte hystérie collective autour de cette histoire aux États-Unis pour des raisons évidentes. Je pense qu'elle s'est emparée de la France pour ça, parce que en fait des actrices françaises sont touchées et aussi parce qu'en France le débat est né avec ses propres acteurs.
Quand vous utilisez le terme d'hystérie collective, ça a une connotation péjorative dans votre bouche ou c'est juste un constat ?
C'est un constat et je dirais pas péjoratif, mais ce qui est certain, c'est que tout d'un coup, on voit bien qu'il y a un déchaînement, il y a un déferlement. Alors ensuite, on peut essayer de l'analyser, d'essayer de comprendre est-ce qu'il est efficace, utile, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement une sorte, je pense, d'hystérie collective.
En tout cas, il y avait une conjonction de faits dans l'actualité qui explique peut-être qu'effectivement, suite à cette affaire, il y a eu un tel retentissement également en dehors des États-Unis, Aude Lancelin.
Oui, c'est vrai qu'on peut parler d'hystérie collective, moi au début, j'étais, pour tout vous dire, j'étais très sceptique au sujet de ce hashtag, de sa répercussion sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai pas souhaité y participer personnellement.
J'ai pas cité le hashtag, mais on peut le redire, hein, c'est le hashtag Balance ton porc.
Pour trois raisons. La première, c'est que même dans le cas de délinquants sexuels avérés, comme aux États-Unis par exemple, où des fichiers existent, vous pouvez taper votre nom et puis vous savez le nombre de pervers qu'il y a sur votre palier. Ça a quelque chose de profondément gênant. Et par ailleurs, ça correspondait aussi à l'exhibitionnisme et à la victimisation que les réseaux sociaux par intrinsèquement favorisent, véhiculent. Donc j'étais gênée par ça. Et puis j'ai changé d'avis, en fait, je le dis tout à fait humblement. J'ai changé d'avis en cours de route. Quand j'ai vu la libération de la parole que ça permettait, quand je me suis souvenue que, finalement, il faut le dire, c'est la honte des victimes, même si ça paraît étrange à comprendre à certaines personnes qui bloquent la parole, qui bloquent la sortie de ces affaires-là. Souvenez-vous, par exemple, de la façon extrêmement forte dont en parle Annie Arnaud dans son dernier livre, Mémoire de fille. La honte, elle raconte son premier rapport sexuel, elle a une vingtaine d'années, avec un moniteur de colonie. Elle va mettre toute sa vie à qualifier cet acte sexuel de viol, parce que c'est pas un acte qui a été commis sous la contrainte, parce qu'il n'y a pas eu de violence, mais que cet acte, il a été néanmoins extorqué par la sidération, par l'ascendant hiérarchique, par tout ce qu'on peut imaginer, par la naïveté, par l'innocence. Et donc, ces actes-là peuvent rester enfouis très longtemps. J'ai été vraiment frappée par cette vague-là, et je pense qu'elle peut avoir, ce mouvement mondial peut avoir une action très efficace.
Philippe Manière, est-ce que vous avez été surpris par cette déferlante de libération de parole et par aussi ce qu'elle révèle, c'est-à-dire de l'ampleur d'un phénomène de violence auquel sont confrontées les femmes aujourd'hui?
Il y a toujours un peu de hasard et un peu de nécessité dans ce genre de cristallisation. Si vous voulez, en France, on est très embarrassé avec ce sujet traditionnellement, parce qu'en France, on a toute une histoire qui l'explique. La dénonciation, on n'est pas confortable avec. Bon, aux États-Unis, quand quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, on le dénonce. J'étais il y a peu de temps à San Francisco, j'ai vu des grandes affiches où on voyait une voiture avec un pot d'échappement qui fumait, et puis il y avait marqué « si vous voyez ça, appelez tel numéro ». Et c'est totalement considéré comme normal dans une très grande partie des démocraties. C'est la même chose en Suisse, c'est la même chose dans beaucoup d'autres grands pays. Chez nous, non. Chez nous, non. Encore une fois, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais la dénonciation étant liée à une partie de notre histoire qui n'est pas spécialement glorieuse, on a tendance à considérer que toute dénonciation est ontologiquement tellement honteuse qu'elle disqualifie l'acte. On peut même pas écouter la suite à partir du moment où c'est l'objet d'une dénonciation. Bon. Aux États-Unis, c'est pas le cas du tout. Et aux États-Unis, vous avez une tradition d'enquête journalistique très sérieuse, très poussée, qui débouche généralement sur des suites dans l'opinion, sur des suites dans les médias et sur des suites juridiques. Nous, on n'avait pas ça jusqu'à maintenant. Je pense que ça va probablement venir. Je pense que c'est plutôt pour le bien. Il y a des inconvénients, évidemment, à ce basculement. On y viendra sans doute. Je pense que c'est pour le bien. Mais je crois que ça a été l'occasion en France de voir cette cristallisation s'opérer, parce que Harvey Weinstein était quelqu'un de tellement puissant aux États-Unis, bien sûr, mais aussi dans tout son milieu, lequel est complètement international, qu'il y a eu un effet de contagion immédiat. Et puis, finalement, je pense que beaucoup de gens se sont dit, bah, finalement, c'est peut-être bien de dénoncer ces faits-là quand ils sont si notoires, si scandaleux, et depuis si longtemps passés sous silence. Donc encore une fois, c'est un peu le hasard et la nécessité. Il fallait que ça advienne un jour, et là, quelque chose s'est cristallisé. Ça n'est pas toujours le cas, vous voyez, pour parler de quelque chose qui est très différent. Je suis frappé que sur l'affaire des emplois fictifs d'Anne Hidalgo, il y a une enquête très très sérieuse qui a été faite par Capital. Il n'y a quasiment pas de suivi. Et encore une fois, en France, on voit ça souvent, il n'y a pas de suivi, les autres médias ne suivent pas beaucoup, et il n'y a pas de suite juridique.
Voilà, on est d'accord que ce sont effectivement des faits extrêmement différents.
Mais dont la gravité est également assez importante. Et c'était la tradition française. Ça n'a jamais été la tradition américaine, en tout cas depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça qui est en train de basculer.
Alors cela dit, il faut quand même aussi peut-être préciser que, s'agissant de la dénonciation, dans la très très grande majorité des cas, ce sont des actes qui ont été dénoncés, et ce sont très rarement des personnes. Hein. On n'est pas non plus dans un phénomène de délation aujourd'hui par rapport à ça. Mais est-ce que vous, Brice Couturier, vous y avez quand même vu un phénomène nouveau en France, que de voir cette prise de parole et cette mise en accusation, non pas d'hommes directement identifiés, mais plutôt de comportements quand même assez généralisés? Parce que c'est vrai, quand on voit l'ampleur de...
Oui, il y a les deux.
Il y a eu les deux. Il y a eu des.
Oui, mais très peu, c'est ce que je dis. Très peu.
Oui, très peu, mais il y en a eu aussi. Donc il y a eu les deux phénomènes. Oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Philippe Manière, je suis d'accord avec lui. Nous n'avions pas cette tradition. Nous n'aimons pas en France la délation pour les raisons historiques qu'il a suggérées. Ce qui est nouveau, si vous voulez, ce qui me semble.
Juste, je me permets à nouveau de vous couper. C'est-à-dire que là, s'agissant de la délation, c'est quand même un phénomène extrêmement mineur par rapport aux prises de parole massives des femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Mais la différence entre une délation d'un nom propre qui est donné sur un réseau social et la justice qui devrait faire son travail en entendant les deux parties, c'est que je connais des cas très particulièrement de gens, d'amis politiques qui ont été dénoncés de cette manière parce que par leurs opposants, si vous voulez, sans aucune contrepartie factuelle. C'est-à-dire que simplement pour se débarrasser, comme on l'a fait si facilement pendant la guerre, pour se débarrasser d'un concurrent commercial ou d'un opposant politique, on peut le balancer aux autorités. Et ça, c'est évidemment très, très déplorable.
Mais est-ce qu'avoir ce genre de propos, ça ne revient pas quand même à minorer un phénomène qui est un phénomène réel, qui est celui des violences sexistes?
Alors,
ce
qui me semble à moi évident, c'est que si cette prise de parole a eu lieu, comme vous le disiez, et contrairement à ce que vous disiez votre introduction, en France, on risque rien pour des harcèlements sexuels, on risque rien pour des agressions sexuelles. Je vais vous citer simplement un chiffre. 94% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite en France. La gendarmerie et la police ne sont pas concernées et classent sans suite les affaires et le parquet ne poursuit pratiquement jamais. Donc s'il y a ce mouvement aujourd'hui de prise de conscience des femmes en France, c'est parce qu'elles se sont heurtées pendant des années, des décennies, au refus d'entendre de la part des autorités constituées, en particulier de la justice. Ce qui doit changer, c'est ça. Ce qui doit changer, c'est que la justice et la police et la gendarmerie en amont prennent enfin en considération ces plaintes, veuillent entendre les plaignantes et que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas la place d'une telle dénonciation. Cette dénonciation est nécessaire parce que dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, ces harcèlements et ces agressions sexuelles, encore une fois, il ne faut pas mélanger les deux. Si j'ai l'occasion, j'y reviendrai. Les deux phénomènes ne sont pas comparables. Enfin, ils ne sont pas à mettre sur le même plan. Mais c'est à la justice d'avoir des preuves, d'avoir des témoignages, de les recouper et à faire son métier, c'est-à-dire de condamner les coupables.
Juste par rapport à mon introduction, j'évoquais les peines encourues, et ce qui n'a rien à voir, effectivement, avec l'application, justement, de ces textes de loi. Est-ce que vous êtes d'accord, Anastasia Colosimo et Aude Lancelin, pour dire que peut-être qu'une des choses que révèle cette affaire et cette libération de la parole, c'est une forme d'incapacité de la justice, jusque-là, à prendre en considération ce que vivent les femmes en termes de violence? Anastasia Colosimo.
Je dirais, enfin, pour abonder dans le sens de Brice Couturier, je dirais que c'est quand même très très important. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant le débat qu'il y a eu en fait entre Sandrine Rousseau et Christine Angot. Je trouve que c'est très important de faire la différence. Violence sexiste, c'est pas atteinte sexuelle et agression sexuelle qui n'est pas viol. La loi est très claire là-dessus d'ailleurs, puisque l'agression et l'atteinte, c'est 5 ans de prison. Le viol, c'est à partir de 20 ans jusqu'à 30, 40 ans de prison. Donc on voit bien que le code pénal fait la différence parce qu'il y a une différence. Et que toutes ces choses qui sont illégales, donc qui sont condamnées pénalement, ça n'est pas aussi ce qu'on considère tolérable ou pas tolérable en termes de comportement, acceptable ou pas acceptable, et qu'on ne peut pas parler de harcèlement de rue comme on parle de viol, etc. Et je pense que une des choses qui met un peu mal à l'aise dans tout ce débat, c'est que tout d'un coup, tout se mélange. C'est que tout d'un coup, des femmes qui se sont véritablement fait violer parlent au même titre que des femmes qui se sont pris une main aux fesses. Et je pense que on est tous très inégaux face au traumatisme, et il ne s'agit pas du tout d'en faire un combat entre victimes, certainement pas. Mais en revanche, je pense qu'il faut prendre très au sérieux le fait que ça n'est pas du tout la même chose et que les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Donc évidemment, il y a un combat judiciaire à mener pour que non seulement les femmes n'aient pas honte, n'aient pas peur, mais qu'en plus, les coupables soient condamnés beaucoup plus systématiquement. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire et que Angot dit très bien, qui est aussi que même la réponse judiciaire n'est pas une réponse satisfaisante. Que dans le viol, la honte, ce n'est pas seulement la honte qu'inflige la société, c'est aussi une honte transindividuelle qui est liée, je pense, à des choses beaucoup plus profondément anthropologiques, beaucoup plus tragiques et terribles d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est irréparable, en fait, dans le viol spécifiquement, et dans un tas d'autres agressions aussi. Et là, la réponse, elle doit être aussi dans le discours, dans le langage, évidemment dans l'éducation. Mais pour ça, il faut vraiment serrer, à mon avis, les problèmes.
Philippe Manière.
Oui, non, je voulais revenir sur ce que disait à l'instant Anastasia, parce que dans le fond, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on évoque ce sujet ce soir. On n'est pas strictement dans un débat d'actualité. On parle de politique en général, pas dans l'ordre de la course de petits chevaux, mais dans l'ordre de l'analyse de ce qui se passe en matière de politique. Pourquoi c'est un sujet politique ? Alors, c'est un sujet politique parce que peut-être que ce réveil social va aboutir à une évolution de la législation. Et donc, on tombe dans le politique à ce titre. Mais plus encore que ça, il me semble que ce qui est important, c'est que les faits qui sont reprochés typiquement à Harvey Weinstein et à certains autres, et encore une fois, il ne faut pas tout mélanger, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce sont des faits qui ressortissent à l'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où quelqu'un est en position de faiblesse, hiérarchique, contractuelle, c'est-à-dire que vous êtes une actrice, vous avez besoin de jouer, et vous êtes un producteur, vous pouvez donner ou non le rôle à l'actrice. Et donc, c'est là où c'est quelque chose qui est très particulier et qui a une dimension politique, c'est dans quelle mesure faut-il soi-même limiter son pouvoir, jusqu'où peut-on exercer son pouvoir, et dans quelle mesure les pouvoirs publics, ont-ils légitimité à limiter les comportements, et peuvent-ils le faire ? Donc, il s'agit du pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. C'est
et de dire,
tu n'as
contrôle,
pas
donc.
Ton rôle, tu n'as pas ton boulot, je te vire si tu n'acceptes pas de me donner telle ou telle faveur. Et c'est là où c'est, dans le fond, in fine, politique, quand bien même c'est principalement sociétal et individuel. Ce sont d'abord des drames individuels. Mais c'est vrai que dans le fond, ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie à cette faculté qu'ont un certain nombre d'êtres humains, principalement des hommes, pas seulement, mais principalement des hommes, d'extorquer une faveur de manière illégitime à quelqu'un qui se trouve en position de faiblesse dans l'interaction.
Ce que nous disent ces nombreux témoignages de Lancelin, c'est aussi ce que sont aujourd'hui les rapports de pouvoir.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout optimiste sur cette affaire-là. Hein. Il suffit d'avoir vécu dans une entreprise pour savoir à quel point les rapports hiérarchiques de femmes à hommes sont très compliqués encore. C'est très pernicieux et hypocrite, si vous voulez, parce que on ne croise dans la vie tous les jours que des hommes féministes, bien sûr. Tout le monde en ce moment, tous les hommes sont ravis de ce qui se passe, de cette libération de la parole. Sauf que bien souvent, que ce soit dans le travail ou même dans l'intimité, on croise beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les rapports égalitaires avec les femmes.
Une des raisons d'être peut-être optimiste, c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir davantage encore que ça ne l'est aujourd'hui, une féminisation des postes de pouvoir. Ou bien est-ce que
oui,
ça ne change rien au rapport de pouvoir pour vous ?
C'est là où est le symptôme est là, c'est qu'en fait, ça n'est pas le cas. Ça ne progresse pas. L'inégalité économique, l'inégalité salariale entre hommes et femmes, elle ne se règle pas. Et ça, c'est vraiment le symptôme du système. Je vois Philippe Manière qui hoche la tête.
Non, elle ne se réduit pas complètement, mais il y a des évolutions qui sont favorables au fil du temps.
Je suis d'accord avec vous,
ça continue à poser un problème.
On ne peut toujours pas expliquer pourquoi, à poste égal et à compétences égales, les femmes sont payées 25% que les hommes, 24% de moins que les hommes en France. C'est inexplicable. Ça concerne absolument tous les postes, toutes les classes sociales. Il y a eu des études sur les étudiantes sorties de Sciences Po. Elles démarrent à 29% de moins que les hommes. Et leur carrière, et la divergence s'accentue avec la carrière. Donc ça, si vous voulez, c'est le symptôme. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas payé comme les autres, vous n'êtes pas respecté. Quand vous n'êtes pas respecté, tout est possible. Tout est absolument lié, si vous voulez. Il y a une imagerie du pouvoir dans laquelle les femmes s'insèrent encore extrêmement mal.
Brice Couturier.
Et je pense qu'il faut revenir à cette distinction qu'on a esquissée entre harceleur et agresseur sexuel. L'agression sexuelle, 36% des Françaises disent en avoir été victimes au moins une fois dans leur vie. C'est extravagant. Ça montre qu'il y a un vrai problème de fond et que jusqu'à présent, il n'a pas été traité. Le harcèlement, c'est autre chose. C'est très difficile à définir parce qu'il s'agit d'un type de proposition qui n'est pas acceptée. Mais avant que cette proposition ait été faite, on ne peut pas savoir si elle sera acceptée ou non. Je pense que le harcèlement, il doit être défini comme celui qui ne veut pas entendre non quand c'est non, qui refuse qu'on lui refuse. Et à ce moment-là, se déclenche le phénomène du harcèlement.
Il faut préciser qu'il y a une loi qui date de 2012
oui,
sur le harcèlement sexuel.
Oui, et c'est assez bien défini. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que nous avons, J'ai vécu dans plusieurs pays et pas seulement en France. Nous avons en France une tradition de la vie en société, de la vie entre hommes et femmes, qui me paraît relativement satisfaisante par rapport à d'autres que j'ai pu connaître, par exemple dans les pays anglo-saxons. Il faut savoir qu'aux États-Unis ou en Australie en particulier, les rapports entre les femmes et les hommes sont terrifiants. Quand vous partez en couple au pub, les hommes prennent une table, les femmes en prennent une autre. Ça se passe vraiment comme ça. Les rapports de séduction sont à peu près inexistants et ils ne doivent pas exister. Moi, je pense que ces rapports de séduction font partie de notre identité et en aucun cas je ne serais prêt à les sacrifier pour la lutte contre, qui est légitime et nécessaire, contre le harcèlement sexuel.
Mais vous voyez une menace aujourd'hui, justement, sur ces rapports de séduction ?
Oui, parce que si vous voulez, à travers... J'approuve cette démarche qui est faite aujourd'hui, à condition, encore une fois, qu'elle rentre dans un cadre judiciaire et qu'elle soit prise en compte enfin par la justice. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'à partir de ce combat légitime, on détruise ce qui fait le charme et l'harmonie de la vie en société en France, c'est que les femmes et les hommes se baladent librement dans les rues, qu'on a la culture du salon qui fait que dans notre pays depuis le 18e siècle, ce sont les femmes qui organisent la sociabilisation, alors que dans les pays anglo-saxons, la culture du club, c'est une culture masculine où les femmes sont exclues. Et moi, je ne veux pas de ça dans mon pays. Je ne veux pas non plus d'une culture du type égyptienne, pas plus que d'une culture du type anglo-saxonne. Je pense que le type de rapport que nous avons, il est évidemment fragile, mais que cette fragilité ne doit pas déboucher sur l'apartheid entre les sexes que j'ai vu de très près dans les pays anglo-saxons.
Vous partagez ces craintes, Anastasia Colosimo ?
Alors moi, je partage complètement l'analyse de Brice Couturier. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, alors il y a une chose qui est le combat effectivement pour l'égalité homme-femme. Et là, je rejoins complètement au-delà de ça. Je pense qu'il y a encore énormément de travail, non seulement sur l'égalité salariale, mais aussi sur les mères au travail, qui est quand même un sujet, je trouve, dont on parle assez peu, alors que c'est un immense sujet pour les femmes. Donc, il y a cette chose-là. Ensuite, moi, sur tout ce qui est le harcèlement, etc., il est évident, je pense, et on ne le dit pas assez, que traiter ce problème-là aux États-Unis et le traiter en France, ça n'a rien à voir, qu'il y a une frustration sexuelle aux États-Unis. Typiquement, qui est immense parce que c'est un pays puritain. Et d'ailleurs, on voit très bien l'excès dans l'université américaine, qui est donc l'hyperconsentement, l'application où la fille doit cocher oui pour que le type se dise elle a bien dit oui. Mais pourquoi en fait ? Parce que la réalité, typiquement de ces histoires aux États-Unis, dans les universités, c'est que les filles boivent, elles couchent, et le lendemain matin, elles ont honte d'avoir couché. Parce qu'elles se disent, si j'ai couché, on va me prendre pour une prostituée, etc. Et donc, pour elles, et c'est terrible, c'est tragique, elles préfèrent dire, j'ai été abusée parce qu'on est dans une société où la sexualité est une chose honteuse. Je pense qu'en France, on est loin je pense qu'il y a encore des combats à mener. Je pense que
On est loin si on regarde justement tous ces témoignages.
Non, alors je pense que c'est ce que j'allais dire. C'est que je pense que. Non, mais ce que je pense, c'est que. Non, mais il y a un combat à mener qui est très fort pour moi. Le combat à mener, et en fait, le combat qui est mené sur les réseaux sociaux, même si moi, il m'est mal à l'aise, s'il peut avoir cet effet, effectivement, que la peur change de camp, qu'en fait, le frotteur dans le métro, tout d'un coup, il va se dire « Putain, merde, j'ai vu 40 tweets ce matin sur mon portable, je vais peut-être pas complètement déconner, là. » Si ça peut avoir, mais même ne serait-ce que sur deux personnes, cet effet-là, c'est déjà bien. Et je pense que même si le moyen n'est pas extraordinaire, la fin peut être utile. En revanche, je pense qu'il faut pas qu'on confonde nos problèmes et les problèmes des Américains, parce qu'ils sont en train de nous imposer, en tout cas, leur langage et leur discours sur ce problème-là. Et en France, je trouve qu'on se débrouille pas si mal par rapport... Alors, je parle même pas de l'Égypte, ça, c'est pas comparable. Mais en revanche, je trouve que par rapport typiquement au monde américain, on se débrouille pas si mal.
Philippe Manière.
Oui, non, je pense que ce qu'Anastasia vient de dire, en passant, mais qui mériterait qu'on s'y attache peut-être un peu plus longtemps, c'est à l'effet dissuasif, à la fois du débat public qui nous réunit ce soir, et d'éventuelles sanctions enfin appliquées, c'est très important. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est que les gens changent de comportement. Hein. Voilà, on va pas... leur couper la tête ou le reste, il faut simplement qu'ils se disent que le prix à payer est trop élevé pour qu'ils puissent se permettre des privautés qui sont inadmissibles. Donc ça, c'est très important, et c'est ce qui fait qu'à mon avis, les évolutions en cours ont une réelle importance sociologique potentielle pour l'avenir. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur ce qui a été dit à la fois par Anastasia et par Brice sur le marivaudage et les excès américains. Il faut comprendre ce que ça signifie. Alors, quand on parle des États-Unis, pays de 300 millions d'habitants avec des communautés extrêmement diverses, et quand on généralise, on se trompe toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions en très grand nombre, quoi qu'on dise sur les États-Unis. États-Unis. C'est-à-dire que c'est aussi le pays où il y a les tribus les plus débridées sur le plan sexuel. C'est aussi un pays d'hyper-tolérance juridique sur ce sujet-là, dans bien des États, pas dans tous. Donc, on peut tout dire sur les États-Unis. On n'a jamais complètement raison et jamais complètement tort. Il est vrai qu'il y a la culture puritaine qui imprègne très fortement les États-Unis. Et il est vrai surtout que, alors je corrige en quelque sorte ce que je viens de dire, que la crainte d'avoir des ennuis sur ce terrain-là amène les gens à s'auto-contrôler dans des proportions qui sont folles. C'est assez nouveau. Quand vous lisez tous les romanciers américains des années 70-80, quand vous lisez Updike, je veux dire, le prof qui couchait pas avec 3 ou 4 étudiantes dans l'année, c'était un raté. Non mais, faut pas oublier hein, que c'est... Donc, ils étaient pourtant déjà un pays d'essence, d'origine et d'héritage puritain.
Donc la crainte pousse à s'auto-contrôler, l'autocontrôle crée des frustrations.
Mais s'auto-contrôler dans des proportions folles. C'est-à-dire qu'il faut, et encore une fois, faut avoir non pas forcément vécu, mais en tout cas être allé aux États-Unis, avoir observé un peu de temps en temps, faut voir à quelle scène ça, on assiste. C'est-à-dire que vous voyez par exemple un ascenseur qui arrive, un monsieur qui attend l'ascenseur s'ouvre, il y a une seule femme, le monsieur laisse l'ascenseur se refermer et repartir, il ne va jamais prendre l'ascenseur avec elle toute seule, parce que, pourquoi ? C'est pas parce qu'il craint, enfin, j'imagine ça doit arriver, mais principalement ça n'est pas parce qu'il craint d'avoir envie de la toucher, c'est parce qu'il craint d'avoir un procès. Et donc, on voit bien que principalement
est-ce
le problème.
Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que j'ai l'impression
que c'est
une espèce de cliché sur les États-Unis.
À l'université, c'est hallucinant. On a vu récemment des étudiants expulsés de très grandes universités. Ils avaient eu beaucoup de mal à y entrer. C'est très cher, pardon, je deviens très contingent. Mais enfin, c'était l'objectif de leur vie. Ils y étaient enfin arrivés. Et puis, tout d'un coup, il y a une dénonciation la nuit. Les flics de l'université viennent chercher le garçon. Et le lendemain, il est expulsé. Il y a un procès expéditif par des gens qui n'ont aucune légitimité. Il est viré. Sa vie est brisée. Ça existe aussi. Donc, attention, je veux bien me faire entendre. Ça n'a rien à voir avec l'importance du problème du frotteur jusqu'au violeur qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire que principalement le problème, c'est ça, c'est les mauvais comportements. Mais n'oublions pas que quand on commence à faire régner la dissuasion qui est nécessaire, on peut facilement basculer dans une sorte de violence permanente, de suspicion, qui, alors pour le coup, détruit pas seulement le marivaudage, mais aussi des vies.
Alors pour mesurer peut-être comment, malgré tout, les mœurs ont évolué au fil des années et comment la gravité de certaines violences aujourd'hui n'est plus du tout acceptée alors qu'elle pouvait l'être autrefois, je voudrais vous faire entendre, avant de poursuivre la conversation, un extrait d'un film qui remonte à il y a 80 ans. Donc, on est en 1937. C'est un film de Marcel Pagnol que certaines et certains parmi vous ont peut-être vu. C'est avec Fernandel. Ça s'appelle Regain. C'est tiré d'un roman de Jean Giono. Et Fernandel, au début du film, est confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui un viol collectif.
Prenez vite à l'auberge.
Et pourquoi?
Oh, c'est dégoûtant ce qui se passe.
Mais qu'est-ce que c'est qui se passe?
Figurez-vous qu'il est arrivé toute une équipe de charbonniers. C'est ceux de Gadareng là-bas. Ils sont au moins 15. Mon Dieu, que malheur.
Mais où c'est qu'il est le malheur?
Attendez! Ils ont mangé tous ensemble dans l'auberge de Martin Pinchon. Et là, il y avait la fille d'hier au soir. Vous savez, celle qui n'a pas pu chanter.
Elle est encore là?
Oui, l'homme, il l'a laissé, il est parti, peu cher, il n'a plus voulu. Alors, ça fait qu'elle a couché sur nos portes.
Oh, peu cher, avec le froid qu'il fait.
Ah, mais les charbonniers, ils l'ont invité à manger avec eux.
C'est des bons garçons.
Oui, et puis alors, quand ils ont dîné, ils l'ont fait rentrer dans l'écurie de l'auberge.
Aïe, aïe, aïe.
Il y en a même un qui s'est enfermé dedans avec elle.
Aïe, aïe, aïe.
Et alors, quand celui-là, il est sorti, il y en a un autre qui est rentré.
Aïe, aïe, aïe.
Et puis?
Et puis un autre, ils sont 15.
Aïe, 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 aïe.
Non, mais enfin, l'effet de la cause.
Mais le cri au secours, comme si on l'a tué.
Et alors?
Alors, il faut pas qu'on la tue.
Est-ce qu'ils sont fortement armés?
Oh, c'est pas des assassins. Mais en tout cas, ils font des misères, hein.
Et ils lui font un genre de misère bien connu et qui fait pas du mal à tout le monde, hein.
Voilà, c'était en 1937 dans un film de Marcel Pagnol. Aude Lancelin, je trouvais cet extrait intéressant parce qu'on voit bien à quel point on pouvait prendre à la rigolade ce genre de choses. Aujourd'hui, ça serait totalement inimaginable d'avoir ce genre de scène dans un film. Heureusement qu'il y a aussi des lois qui sont un petit peu dures et sévères en la matière pour, si ce n'est dissuader, mais enfin en tout cas pour punir ce genre de comportement.
Non, mais bien sûr, mais je reviens sur ce que disait Brice Couturier justement à propos de la société de galanterie française, des lumières, des salons. Bon, la vérité, elle a été rappelée.
J'imagine qu'à l'époque, on aurait pu avoir peut-être aussi ce genre de commentaires. Même si, voilà, je suis d'accord, la gravité des actes n'est pas du tout la même, mais c'était peut-être aussi au nom d'une certaine façon.
La vérité, c'est qu'il y avait deux catégories de femmes pendant des siècles en France. Hein. Il y avait celles qu'on épouse et puis il y avait les autres. Il y avait un certain gibier, si vous voulez. Donc on ne peut pas, comme ça, idéaliser un passé qui ne correspond plus du tout aux mœurs égalitaires actuelles. Ça n'a pas vraiment de sens. Effectivement, il y a une culture du soupçon qui pèse sur les relations entre les hommes et les femmes aux États-Unis. On le sait, c'est incontestable. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est extrêmement loin en France. On est dans un pays assez méditerranéen sur ces questions-là, assez sexiste. Et je ne pense pas du tout que les relations de séduction soient, à l'heure où on parle, altérées par la peur de prendre un ascenseur avec une femme. Et tous les exemples sortis ces quelques jours, dans les entreprises, notamment dans les médias, le montrent à loisir.
Est-ce qu'on en est si loin que ça? Alors, pas avec la même ampleur que ça peut exister dans les pays anglo-saxons, au-delà de cette ère du soupçon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un homme qui ne prend pas la parole sur ce qui est en train de se passer, est-ce que ça n'est pas un homme qui est a priori soupçonnable de cacher quelque chose? Et quelqu'un, un homme qui prend la parole et qui va dire, bah, évidemment, comme tout le monde, qu'il est contre ces phénomènes-là, qu'il faut absolument les punir sévèrement, est-ce qu'il n'est pas lui aussi soupçonnable de dire, bah, finalement, il parle comme ça, mais si ça se trouve, il a des choses lui aussi à se reprocher? J'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup, ces temps-ci, un petit peu dans cette difficulté-là, et la difficulté aussi pour les hommes de savoir, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il ne faut pas parler? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais demander aux hommes après, hein, mais je voudrais d'abord avoir votre avis à vous, Aude-Lancelin. Et Anastasia,
oui, enfin, je ne voudrais quand même pas qu'on exagère les tourments vécus par les hommes à l'heure actuelle. Justement, pour une fois que la parole se libère sur les violences sexuelles vécues par les femmes, ce serait quand même dommage. Je ne nie pas, si vous voulez, hein, que les revendications égalitaires bousculent l'intimité, bousculent le jeu sexuel même. C'est incontestable. Hein, les deux, y a une interaction entre les deux. Mais bon, il est certain qu'on ne peut pas en rester là.
Avant de demander leur avis à Brice Couturier et Philippe Magnin, je voudrais vous lire un extrait d'une tribune qu'a publié aujourd'hui sur le site internet de Libération le psychiatre Serge Éphèse. Il raconte, alors que ses patients viennent le voir en ce moment en disant, bah voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour faire savoir que bah, nous, on n'est pas des hommes comme ceux qui sont décrits notamment dans le hashtag Balance ton porc. Et il dit ceci: depuis un siècle, les femmes s'interrogent sur la nature du féminin. Depuis un demi-siècle, les homosexuels affrontent les questionnements sur le genre. Et pendant tout ce temps, les hommes hétérosexuels sont restés muets sur que leur masculinité allait de soi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème pour les hommes aujourd'hui de prendre la parole? Je vois que Philippe Manière souffle, il trouve ça totalement stupide.
Non,
et il va le dire au micro.
Non, stupide, non, mais bon, ce qui est vrai, c'est que devant...
Est-ce qu'il
faut se positionner sur le sujet? Pas forcément.
Eh ben, pourquoi
si
il faudrait
on
pas
notre avis, on mais parce qu'on n'est pas obligé d'être tous militants à chaque instant pour se donner bonne conscience. Donc, bah, je trouve qu'on n'est pas obligé de suspecter
les gens.
En tant
qu'homme, vous êtes un peu représentant de cette catégorie de la société.
Enfin, bon, en tant qu'homme, ouais, c'est ça aussi. Vous êtes en train de tomber dans le travers américain. Moi, j'ai vu des tas de groupes américains, I as an Afro-American woman, etc. On peut peut-être s'exprimer autrement qu'au titre de son déterminisme. Donc, si j'étais une femme, j'espère que j'aurais à peu près le même sentiment. Et si j'étais noire, je pense que je penserais pareil. Mais je peux me tromper naturellement, mais je ne me sens pas mis en demeure de me justifier en tant qu'homme blanc parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas de mon fait, si vous voulez.
La plupart de nos auditrices et de nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je vous montre la une du Parisien, c'était avant-hier, avec uniquement des hommes. Les hommes s'engagent. Alors, ce sont que des personnalités du monde du spectacle, de la politique.
Ce sont des hommes blancs de plus de 50 ans.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce genre
d'initiative? Mais ça veut dire quoi? Surtout, je comprends pas, c'est à quoi les hommes s'engagent?
Ça veut rien dire.
Quoi, ils ont envoyé leur photo aux Parisiens.
Ils s'engagent à dire
ils ont répondu à une interview et ils s'engagent à dire les violences sexuelles, c'est pas bien.
Non, ils s'engagent pas. Alors, je vais vous le dire, si vous l'avez pas vu, ils s'engagent à dire si nous sommes témoins de ce genre d'acte, eh bien, nous ferons en sorte que d'aider les femmes qui en sont victimes, de les dénoncer.
C'est bien le moins, enfin.
Je trouve ça fascinant
que quelqu'un dise, vous savez, moi j'ai bien réfléchi et tout compte
fait,
je vais faire
se
commander la loi et la morale. Je dis, super, merci de me prévenir, parce que j'aurais pas pensé. C'est n'importe quoi. Alors, en même temps, si vous voulez faire valoir votre image, si vous voulez vous faire reconnaître comme l'ami du genre humain et en particulier de la genre féminine, c'est une très bonne tactique, mais ça s'appelle de la tactique.
Bon, le Parisien vous contacte, Brice Couturier, c'est une supposition pour faire partie de cette une. Les hommes s'engagent, vous répondez oui ou vous répondez non ?
Je ne suis pas assez célèbre pour participer à cette,
ça à cette exposition. C'est destiné. Non, écoutez, non, mais plus sérieusement.
Justement, c'est l'occasion.
Non, moi, ce qui me dérange terriblement, un peu comme Philippe Manière, c'est le fait d'être ciblé, si vous voulez, comme potentiellement coupable. J'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas à le faire, et j'ai pas besoin de montrer l'exemple parce que je me comporte comme je me comporte. Voilà. Donc c'est pas la peine d'essayer de nous faire la morale à nous, les hommes effectivement blancs de 50 ans, etc. Parce que on serait des salauds par définition. N'oublions pas ce qui s'est passé quand même à Cologne et à Hambourg le 1er janvier 2016. Donc c'était pas spécialement des hommes blancs de plus de 50 ans. Et il y a eu 1600 plaintes pour abus sexuels.
C'est quand même, il faut reconnaître quand même, Brice, pour être honnête, que ce sont rarement des femmes qui frottent dans le métro. Enfin, voilà, donc écoutez, le problème est principalement masculin.
Sans doute. Mais c'est pas pour autant que ça ne vous est jamais arrivé à vous de vous faire embrasser par une femme que vous ne désiriez pas ?
On rentre un peu dans un sujet.
Non, mais j'aimerais bien savoir.
Tout arrive, Brice, mais statistiquement.
Vous n'êtes pas porté plainte.
Les faits dont on débat ce soir sont principalement le fait des hommes. C'est tout ce que je dis.
Non, et on parle pas aussi. Caroline Eliachev ce matin sur les matins de France Culture parlait du cas, des cas qui sont assez nombreux, d'hommes qui se sont fait violer par d'autres hommes. Bizarrement, c'est tout à fait absent du tableau. Et pourtant, ça existe, ça aussi. Bizarrement, vous voyez qu'on n'en parle pas du tout dans cette affaire. Et pourtant, bon, c'est sans doute beaucoup moins important que les violences subies par les femmes de la part des hétérosexuels, mais ça existe également. Bizarrement, ça fait pas partie du tableau. Je me demande pourquoi.
Non, mais la domination masculine ne s'exerce pas qu'à l'égard des femmes, mais on peut dire quand même que c'est essentiellement à l'égard des femmes que ça s'exerce.
Majoritairement.
Anastasia Colosimo.
Je pense qu'en parlant des États-Unis et en parlant du mouvement que ça a en France, moi j'ai vu l'écho qu'a eu tout ce sujet sur la domination masculine dans l'université. Et je pense qu'il y a un travers aussi qui est très fort. C'est, encore une fois, il faut marteler, répéter, la peur doit changer de camp. Il faut marteler, répéter que la justice doit faire son travail, que les victimes doivent savoir que si elles portent plainte, elles seront entendues, etc. Ensuite, je pense qu'il y a un débat intellectuel derrière, qui est un débat très typique, en fait, du gauchisme à la fois américain et français, qui est que la lutte des classes a été remplacée par la lutte des races, et aujourd'hui, c'est la lutte des genres qui est un peu en vogue. Et effectivement, ce qui est extrêmement gênant, c'est que cette lutte des genres devient un truc entre les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, ce qui ne permet pas de parler d'un sujet qui touche les hommes et les femmes, à savoir l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir au travail, ça touche aussi les hommes. Des hommes envers des hommes, des femmes envers des femmes, des femmes envers des hommes et des hommes envers des femmes. Le viol, entre hommes, le viol, c'est aussi une violence extrême, mais qui est aussi, je pense, plus tabou. La pédophilie, on en parle beaucoup, mais pas toujours aussi, peut-être comme on devrait en parler. Donc je pense que transformer ça en lutte des genres, c'est extrêmement dangereux. Et surtout, ça montre effectivement la nouvelle tonalité qu'il y a à l'université et qui dicte un peu ça aussi à travers les médias et qui, je pense, est regrettable.
Bon, on est presque au terme de cette discussion. Je vous rappelle le titre qu'on avait choisi pour ce soir, Affaire Weinstein et puis les autres affaires. Est-ce que plus rien ne sera comme avant ? Est-ce que plus rien ne sera comme avant après cette affaire-là, ces affaires-là, au-delà de cela ?
Non, bien sûr que si, tout sera comme avant. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire mûrir ce mouvement, en tirer quelque chose, et des femmes sont en train de le faire. Je pense à l'une des victimes les plus célèbres d'Harvey Weinstein, qui est Asia Argento, qui est en train de fédérer un mouvement, une espèce de guerre comme ça contre les faits de harcèlement sexuel. Maintenant, moi, je pense effectivement que y a une guerre des sexes qu'on ne peut pas, qui existe, contrairement à ce que pense un certain progressisme, qui pense qu'en versant le même salaire à tout le monde, on réglera tous les problèmes. Ce n'est pas le cas. Et je pense que la guerre des classes, contrairement à ce que disait Anastasia,
Mais moi, j'y crois beaucoup. Mais par exemple, quand Léa Seydoux s'exprime, c'est Léa Seydoux qui s'exprime. Et je pense que c'est plus facile aussi de s'exprimer pour Léa Seydoux que pour une personne qui a pu vivre la même chose.
La parole des personnalités peut aider des anonymes.
Je ne sais pas, en tout cas, à quel point on oublie pas
je
aussi
le pense
la différence qu'il y a entre typiquement
ne parlez pas en même temps toutes les deux, vous faites du woman interrupting là.
À quel point il y a une différence entre une femme pauvre aussi et une femme riche dans ce genre de problématique, à quel point, enfin, je pense que tout ça existe et que c'est plus complexe.
Le viol, la violence se nourrissent toujours du silence. Et qu'à cet égard, la période que nous sommes en train de vivre est importante, est intéressante. La guerre des sexes continuera, mais c'est pas parce qu'une guerre est ingagnable qu'il ne faut pas la mener, et ça vaut aussi pour la guerre des classes.
Philippe Manière, ce sera la conclusion.
Oui, non, c'est-à-dire que je pense que quelque chose a changé. Il y a des choses qui ne changeront pas. Si vous appelez ça la condition humaine, vous appelez ça le péché originel, vous appelez ça la tentation, peu importe. Chacun s'accroît, j'allais dire. Mais ça ne changera pas. Ça ne se rapporte pas par décret. En revanche, ce qui peut changer sur la base de ce qu'on est en train de vivre, c'est effectivement que le prix à payer pour être déviant par rapport à la loi et par rapport à la morale élémentaire augmente beaucoup. Si vous étiez producteur à Hollywood, après avoir vu la rapidité et l'ampleur de la déchéance de M. Weinstein, je pense que vous auriez tendance à hésiter avant de procéder à la prochaine exaction.
Alors, ce qui me concerne, je suis producteur à France Culture et j'en profite justement pour vous inviter au-delà de la réécoute de cette passionnante discussion entre vous quatre, Anastasia Colosimo, Aude Lancelin, Philippe Manière et Brice Couturier. Écoutez aussi Politique demain, de midi à midi 30, puisque le sujet de demain sera Pouvoir et virilité, la loi phallique. Ce sera une discussion en compagnie de la philosophe Olivia Gazalet qui vient de publier Un mythe de la virilité. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Eva Pellerin, émission réalisée par Alexandra Longuet avec la prise de son, Jason Taous.